méditation est prise dans un texte inspiré par Jean-Paul II. La justice, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, la justice apparaît comme particulièrement importante dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, où la valeur de la personne humaine, de sa dignité et de ses droits, au-delà des proclamations d'intention, est sérieusement menacée par la tendance diffuse de recourir exclusivement aux critères de l'utilité. Et de la possession et de l'avoir. Sur la base de ces critères-là, la justice est considérée de façon réductrice. Alors que elle acquiert sa pleine signification, l'authentique signification qui est la sienne, dans une vision chrétienne de la personne humaine. La justice, c'est un fait, n'est pas une simple convention humaine, parce que ce qui est juste n'est pas déterminé originellement par la loi, ni par une convention, mais par l'identité profonde de l'être humain. Pour être un ami de la justice, il faut être un ami de la vérité plénière sur l'homme. Cette vérité pleine sur l'homme permet de dépasser la vision de la justice qui soit une vision conventionnelle, contractuelle. Cette vision extérieure est très limitée. Elle est très moderne. Ainsi, la justice conventionnelle seule ne suffit pas. Elle peut même en arriver à se nier elle-même si elle ne s'ouvre pas à cette force plus profonde qui est l'amour. Parce qu'elle s'inscrit dans l'horizon de la solidarité. De la solidarité et de l'unité dans l'amour. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au fur et à mesure qu'on avance, pas à pas, au fur et à mesure, on se purifie. C'est normal qu'on avance pas à pas vers le ciel. On se purifie. Et ça a pour conséquence que des imperfections, des impuretés, nous remontent à la surface. Elles nous habitaient, mais en raison de la purification, elle remonte à la surface pour sortir. L'Esprit Saint, Jésus, le ciel, la poussée bienfaisante des sacrements fait que il y a des exigences font nouvelles, mais ces exigences ont toujours existé, mais simplement, on pensait qu'elles, on devient plus délicat, disons, voilà. Et des choses qui ne nous effrayaient pas du tout, nous effraient. Au fur et à mesure qu'on avance vers le ciel, le carême, c'est une grâce de carême parce que Le péché se présente devant nous. On se dit, mais mon Dieu, j'ai encore ça aussi. Mais c'est affreux. Mais j'ai encore ce genre de pensée, j'ai encore ce genre d'inimitié. Et faut pas s'en décourager, parce que c'est plutôt un bon signe de voir ces choses nous remonter comme ça du cœur et se présenter sous nos yeux. Parce que justement, le chemin, c'est un chemin de perfection, c'est un chemin de sainteté. C'est sûr que quand la surface est couverte d'une neige qui vient de tomber au soleil, s'il y a une goutte de sang dessus, tu la vois. Tandis que quand tu avais démarré dans l'esprit du monde, le péché et tout, la méchanceté et tout, c'était un tas de boue, c'était une mare de sang, une goutte de sang supplémentaire, tu ne la voyais pas. Et c'est comme ça qu'on remonte à la surface. Et j'aime bien ce passage de quand tu as quelque chose contre ton frère, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse tout, présente-toi comme ça, à l'intérieur de l'autel. Laisse ça, laisse-la, prends-la, dépose-la au pied. Dépose-la dans l'autel, dépose-la au pied de l'autel, dépose-la. Va te réconcilier avec ton frère. Puis après, donne l'offrande. L'autel, pour moi, le véritable autel, c'est la neige, c'est cet océan de neige immaculée, brillante. Magnifique au soleil. Voilà, si on a une impureté, vite, il faut continuellement, et de plus en plus, la présenter devant l'autel. On est face à Marie. On est face à elle. Il faut d'abord nous remettre en elle. Et si c'est une goutte d'écarlate, elle deviendra elle-même blanche comme elle, comme la neige. On n'a jamais fini. Et heureusement, et c'est très réconfortant. C'est une règle d'ailleurs de discernement, enfin de qu'on apprend en commençant, parce que les commençants, enfin, ils se disent, mon Dieu, mais c'est pas possible. Plus j'avance, plus je fais des efforts, plus j'ai de péché devant moi. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Le méchant qui n'est pas encore dans la grâce de la sainteté progressante, ou de la sainteté accomplie, hein. Puisqu'il n'y a que trois étapes dans la vie du carême. Il y a l'étape purifiante, l'étape sanctifiante, divinisante, et puis il y a l'étape parfaite, l'étape de l'union, l'étape de l'accomplissement, les commençants, hein. les voies illuminatives, puis les voies unitives. Au début, évidemment, les voies commençantes. On ne sait pas un petit peu cette règle-là. Parce que dans les voies commençantes, il a bien fallu que nous sommes tellement récepteurs. Nous recevons tellement l'être humain que nous sommes notre dignité, notre justice. C'est un ajustement à tout ce qui est autour de nous. On est ajusté. Voir les adolescents, par exemple, hein. Ils rentrent dans la société, ils la découvrent, et il y a un effet de justice qui fait qu'il y a chez eux quelque chose qui sont ajustés à ce qu'il y a tout autour d'eux. Et ils sont récepteurs aussi, parce qu'ils ont tout reçu. Nous avons tout reçu dès le départ. Et si on ne fait pas attention à rester ajusté à Dieu, à rester ajusté à la transition. transcendance du Saint-Esprit, si on n'est pas ajusté à l'Immaculée, enfin, à une justice qui va jusqu'au bout d'elle-même, enracinée en elle-même, dans l'amour, eh ben, forcément, on devient méchant. On devient impur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On devient impur. Il met de la méchanceté, elle rentre. Parce qu'on devient ce qu'on regarde, on devient ce qu'on contemple, on devient ce à quoi on s'ajuste. C'est pour ça que le pape il a raison de dire, en effet, qu'une justice qui consiste à s'ajuster à tout ce qui est autour de nous, bah oui, elle est méchante. Si on s'ajuste à l'avortement, par exemple, on devient cruellement méchant. Mais c'est ce qu'il y a autour de nous, c'est normal. Donc la justice conventionnelle, c'est une destruction de la justice primordiale. Donc de respecter la justice conventionnelle, c'est une méchanceté. Ça n'aurait pas dû être une méchanceté. Mais en fait, à la fin, au temps de la désolation, de la froidure, de la mort, de la glaciation, oui, la justice conventionnelle est forcément une justice cruelle. C'est forcément une justice qui écrase, qui est injuste. Ça, je pense que c'est facile à comprendre. Donc quand on est dans le carême, il faut juste laisser ça. Il faut déposer un petit peu, déposer toutes ces imperfections. Et puisqu'elles sont rentrées, puisqu'elles se sont installées, puisqu'on les a assimilées, il faut bien qu'on s'approche de l'autel. Ben évidemment, on s'approche de la Jérusalem dernière. Ben oui, on grandit en sainteté. La lumière surnaturelle divine de Dieu immaculée, purifiante et salvatrice, nous envahit à son tour par le dessous. Alors, ben, du coup, ce qui est rentré ressort. C'est pas un mauvais signe, dit oh là là. Et le carême est une lutte quand même. C'est une lutte entre la justice primordiale et la justice éternelle, et puis entre les deux, quoi. Parce que les deux se conjoignent en nous, par le dessous, dans notre humble retrouvaille avec nous-mêmes en Dieu, et ben elles font remonter à la surface. La nécessité de cette lutte continuelle pour la sainteté. Et tu vas pas t'arrêter, non, tu vas pas à la messe, ne communie pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'en veut. Ben, tu dis, c'est quand même pas de ma faute, il y a quelqu'un qui m'en veut. Enfin, ça c'est la meilleure, celle-là. Mais oui, mais si quelqu'un t'en veut, et que tu t'es pas mis dans son cœur, il n'en sait rien que tu te mets dans son cœur. Mais le Seigneur, lui, le sait. L'autel, il le sait. La Sainte Vierge le sait. Est-ce que tu t'es mis dans son cœur pour venir l'habiter, t'ajuster à un amour que tu n'as pas et à le prendre comme étant un autre toi-même et venir visiter son cœur et venir se nourrir et lui donner ta bénédiction et de lui donner la bénédiction de Dieu et recevoir son mauvais sentiment comme une bénédiction qui t'indique précisément que tu manques, que tu n'es pas dans une charité parfaite, puisque tu n'es pas capable d'aimer ton prochain, d'aimer ton sous prétexte qu'il te veut du mal. Enfin, il te veut du mal. Alors du coup, il te révèle quelque chose. Il te révèle que tu n'as pas la charité. La charité, c'est que tu es capable d'aller dans le cœur de ton prochain, même s'il te veut du mal, d'aller le visiter et te nourrir d'un amour qui est le sien. Il a peut-être la forme d'une soif d'amour inouïe, inaltérable que tu n'as pas. Alors on ne juge pas aux apparences, mais en tout cas, je suis capable de venir habiter dans son cœur. Je suis capable de l'aimer, du moins de me désaltérer, de me, de découvrir un homme et de le visiter et de bénir le bon Dieu en lui et de souhaiter que cette bénédiction me fasse passer devant toi. Tant que j'ai pas fait ça, est-ce que je suis juste? Je suis pas encore juste. Donc oui, c'est pas parce que tu en veux à quelqu'un que tu... Non, c'est parce que quelqu'un t'en veut. Ça, c'est délicat, ça. Ça, c'est une justice qui dépasse la justice des pharisiens. Œil pour œil, dent pour dent. Et oui. Parce que Jésus, il veut que nous soyons comme lui. Il veut que nous soyons comme Dieu. Il veut que nous soyons comme le Père. Le Père est saint. Il pardonne toujours. Il y a toujours des immenses profondeurs pour trouver le fond de notre cœur et le relever dans la sainteté de Christ, Fils unique et bien-aimé. Et nous, le Père est saint, et nous aussi, et nous devons être comme le Père. Le carême, c'est beau le carême pour ça. Hein? Il me dit, mais oui, mais... Ouf. Et là où Dieu et notre prochain nous sont le plus proches, ben c'est en Marie, c'est dans l'autel de l'amour pur, incarné, immaculé, avec toutes ses dimensions responsables, divines, humaines, solitaires, et fécondes. Toutes ces dimensions, il n'y a pas plus proche. Notre prochain qu'on doit que elle. Donc, approche-toi de l'autel, dépose ton impureté, réconcilie-toi avec ton prochain et va vers ce qui émane d'elle dans la direction opposée, c'est-à-dire celle de Dieu. L'offrande de l'autel, elle va vers Dieu. C'est ton frère. C'était hier, nous sommes allés pour prendre des lunettes chez les opticiens. Bon. Alors, il y avait deux employés là. Une qui nous avait reçu la première fois et une qui nous avait reçu la deuxième fois. La première qui nous avait reçu la première fois, très gentille, très accueillante. Elle portait un bébé dans son sein. Elle était délicate, gentille, tout ça, bon. On voyait que c'était, c'était quand même agréable, c'était pour des lunettes, mais il y avait plus que des lunettes, voilà, c'est bon. Puis, on va voir, et puis, quelques jours après, on va voir et on tombe sur une deuxième. La deuxième, elle venait de voir une émission à la télévision, et donc, on a eu l'impression que c'est quelqu'un qui était le diable. Enfin, j'étais vraiment le diable qui venait chercher les lunettes. Le diable très dangereux, très méchant. Le diable a repoussé immédiatement que si un sentiment effroyable, des regards, un comportement inouï pour rejeter le mauvais. Donc voilà. Et puis, je suis allé une troisième fois, je me dis, on va tomber sur laquelle des deux là. On va tomber sur laquelle des deux? Eh bien, entre les deux, avant d'y aller, le Saint-Esprit m'a dit, bon, faut bénir celle qui te veut du mal, celle qui te voit mal, celle qui t'a tout fait pour que tu t'enfuis du magasin. Je ne serai plus jamais là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, on a prié pour cette deuxième personne qui évidemment, tu laisses tout, quoi, et tu laisses là ton offrande, tu vas te réconcilier avec celui qui t'en veut. Si ton frère a quelque chose contre toi, après tout. Et c'est un effort à faire, ça. C'est un effort que... C'est la volonté de Dieu. C'est l'océan, c'est le soleil brûlant de l'amour qui resplendit de la divine volonté que je prends dans mes bras, je prends dans mon cœur, et du coup je peux aller dans le cœur de mon frère, de ma sœur, de mon enfant, de mon... qui me fait du mal. Je peux y aller et je peux m'installer là dans le fond de son cœur et demander son salut, enfin vivre de la création, du surgissement, des fontaines intarissables de son salut. Pour que ça se répande dans son cœur, pour que et vive sa bénédiction. Il faut pas faire comme si Dieu, ça c'est un diable cette fille. Je passe à côté, j'espère que je vais tomber sur la bonne, qui est gentille. Et finalement, on est tombé sur la bonne qui était gentille, mais l'autre, pour laquelle on avait fait un acte de charité divin, était à côté. Et on ne trouvait plus lunette. Et ben c'est l'autre qui est allé chercher, qui a trouvé tout de suite, qui l'a donné. Oh, j'ai dit merci. Mais sans forcer. Sans forcer. Et on voyait bien que c'était bien ce qu'il fallait faire. Et du coup, c'est des trucs tout simples. Hein. Il faut apprendre à aimer son prochain avec le fond de son cœur, pour atteindre le fond de son cœur, pour se nourrir de l'amour qui n'est pas encore peut-être possible, qui n'est pas encore, n'a pas encore surgi. On a le livre d'Ézéchiel le dit bien, quelqu'un qui est méchant, qui est horrible, méchant. Horriblement méchant. Mais peut-être que justement au dernier moment de sa vie, oh, il va avoir un amour sublime et il va rentrer dans les bras de Dieu. Et donc son amour en fait était tellement purifié, tellement apurifié, tellement purifié qu'il n'a pu apparaître qu'à la fin, quoi. Parce que et l'autre qui a été magnifique. Humble, doux, juste, tout ça, toujours attentif aux autres et tout. Et à la fin, il dit bon, à la fin de sa vie, ben, ça suffit. Mais enfin, s'il vous plaît, amenez-moi de la morphine, quoi. C'est quoi cette infirmière qui arrive en retard, enfin? Et puis qui s'énerve et tu meurs là-dessus. Eh ben. Donc celui qui est très 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 méchant, il y a peut-être un amour. C'est un élixir inouï. Que toi, qui trouves qu'il est méchant, toi tu n'as pas. On trouve le cœur profond de quelqu'un par la fin. Et aussi, par le fond de son cœur qui était le principe. Et le principe et la fin, c'est Marie, dans la création humaine, dans la personne humaine, dans la dignité humaine. Le principe, c'est l'Immaculée Conception. son égal, sa soif et sa provenance venant de l'amour de Saint Joseph en Dieu est dans le principe, est dans le principe de ta propre création, parce qu'ils sont tous les deux ton père et ta mère. Faut pas rester à la surface du cœur, à la surface de notre vie spirituelle. Parce qu'il y a une surface de la vie spirituelle. Il faut aller au fond de la vie spirituelle. Le fond du cœur. Il faut aller au fond de la source d'amour, de justice et de sainteté. C'est un peu l'effort de ce carême. C'est aller jusqu'au fond, jusqu'à faire sortir dans le cœur de chaque être humain, en commençant par Adam et en passant par ceux qui sont proches de nous et en allant jusqu'à la fin. Et bien sûr qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est pas de la psychologie de faire ça. Le psychologue vous apprend pas à faire ça. Mais Dieu nous attend là, justement. Pour ça qu'il y a cet effort, vous voyez. Il faudrait prendre 10 minutes pour regarder. C'est le vendredi de carême, le 15. Voilà, c'est le cinquième jour de la neuvaine de Saint-Joseph. C'est formidable, ce 5 qui représente l'Immaculée Conception, dans son Assomption à Christ, si je puis dire. Dans la neuvaine de Saint-Joseph. C'est-à-dire dans la paternité incréée de Dieu. Saint-Joseph, c'est aujourd'hui, c'est ça. Ça signifie quelque chose. Alors évidemment, il faut aller à ce fond, faire cet effort. C'est pas faire cet effort, c'est reprendre pleinement possession de soi dans l'émanation de l'immaculée dignité, justice, sainteté et grâce de l'être humain. Nous avons un père et une mère, et nous avons un père et une mère, et ce père et cette mère existent déjà comme puissance dès le premier instant de notre conception. On est le tabernacle de cette puissance maternelle et paternelle. On est le tabernacle de la sainteté, source de sainteté. C'est notre chair et notre sang. Et qui sont le tabernacle de cet amour à l'état pur en puissance. Il faut prendre 10 minutes pour regarder ce qu'on dit le catéchisme. Là, je ne pas. C'est pas bien, hein, je connais pas par cœur hein, celui-là, mais si je le connais par cœur, mais je ne veux pas le confondre avec. Voilà, ben oui. Notre liberté d'enfant, lorsque nous étions un embryon, notre liberté, notre intériorité lucide, elle avait une septième caractéristique, le septième élément. C'est que cette force, cette pleine possession de nous-mêmes, dans ces premiers instants de notre existence en Dieu, eh ben, c'est un tabernacle, c'est une espèce de nid qui est une racine, qui est la racine et la matrice. La racine et la matrice, donc la maman. C'est notre maman, la Memoria Dei. La racine et la matrice. De notre force lumineuse contemplative. Et des profondeurs de notre capacité à aller toujours dans le cœur de quelqu'un d'autre. Pour y trouver la justice, justement, de l'amour, eh bien, il y a un nid qui est la matrice, l'engendrement, et la racine de ce monde de lumière et d'amour qui doit se répandre, qui doit progresser, qui doit grandir. Et cette matrice, cette racine, cette maman qui est notre Memoria Dei, notre présence nous-mêmes dans notre liberté, eh ben, elle est comme pas identifiée, hein, Elle est bien distincte, mais elle est comme collée en gratitude avec la paternité de Dieu. Et on a donc un père et une mère dans la même Maria Dei. Il y a quelque chose de spontané. C'est beau, hein, cette formulation du catéchisme. C'est vrai. La Maria Dei est comme la racine, la matrice de ma raison contemplative et de ma volonté amoureuse. Il faut que je retrouve pleine possession de moi-même dans ma Maria Dei pour être catapulté, si je puis dire, pour projeter, pour faire surabonder en moi la lumière et l'amour. Parce que je garde contact avec la paternité. C'est pour ça qu'il n'est jamais envoyé, puisque avec ma matrice, avec ma Maria Dei, nous sommes envoyés dans la lumière. C'est à cause de ça qu'il est dit que dans l'unité du Père et de la Mère, de notre Maria Dei, eh bien, il y a un engendrement. Un engendrement, c'est exactement ça. C'est le Verbe de Dieu qui illumine. Et on est un tabernacle de cet engendrement, du prolongement des processions. Et elles sont forcément dans l'amour du Père et de la Mère. Et bien, de reprendre possession, de s'enfoncer là, de regarder ce que nous sommes dans la justice. C'est aller plus profond que le pharisien. Parce que le pharisien, lui, il reste à la justice conventionnelle. Il fait les choses qui sont bien. C'est évident. Mais regardez d'une justice selon la loi, enfin, il fait tout ce qui est bien, il le fait, le gars. Tout ce qui est bien. Intérieurement, extérieurement, tout ce qui est bien, il le fait. Et bien, cette justice qui demande l'Église pour le carême, que Jésus, Marie-Joseph demande à leurs enfants dans le monde nouveau, est plus profonde. Elle est plus profonde. Et si on ne dépasse pas la justice jusque dans ses profondeurs, on n'aura pas part au royaume de Dieu. Voilà, ça, c'est le. Et c'est pas un miracle hein, de retrouver cette force, de se retrouver soi-même. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est une bénédiction qui est donnée à tous les hommes. C'est une bénédiction qui est donnée à tous les hommes. C'est pas une bénédiction chrétienne. Elle s'ouvre ensuite à la bénédiction chrétienne. Mais non, sans passer par la bénédiction de tous les cœurs humains. Auparavant, on a déposé, avant d'aller sur l'autel, tout ce qui fait que tous les cœurs humains ne sont pas présents. Alors à ce moment-là, dans l'offrande, oui, du Verbe incarné, tous les hommes, on peut réaliser dans l'autel l'offrande. Mais n'empêche que ça, c'est quelque chose, c'est un message, une révélation. Comme dit le pape dans la méditation que nous avons eue tout à l'heure, d'une justice anthropologique d'amour et d'unité. Il y avait toujours des formules, le pape. C'est vrai. C'est un message qui est donné à l'Église, aux bouddhistes, hein, qui est donné par l'Église. À l'embryon, c'est quelqu'un, un message qui est donné par l'Église, à l'homme, à la femme, au mourant, à l'âme du purgatoire. C'est le message qui est donné par l'Église à chaque âme, à chaque enfant avorté, ou qui va être avorté aussi. C'est un message que donne l'Église à l'athéisme le plus pur qui puisse exister. Parce que l'être humain reste un être humain. La pleine possession de soi. permet une liberté beaucoup plus profonde de s'exercer, de s'actuer. Ça n'enlèvera pas la liberté, mais ça lui donnera une profondeur totale. Ça lui donnera une profondeur de vérité. Et même si tu décides, comme Lucifer, dans toutes tes profondeurs, tu seras toujours comme ça dans la gratitude, parce que tu as cette liberté, que tu le veuilles ou non, elle fait surgir en toi, même si tu ne dois pas aller au ciel, qu'est-ce que tu veux. La joie d'exister. Mais normalement, c'est pas fait pour aller dans l'approbation, hein, avec une plus grande profondeur. Non, non. Normalement, c'est du coup, je vais trouver au fond de moi, même si je suis athée, très loin, je déteste Jésus. Quelquefois pour des raisons qui sont pardonnables. Hein. Mais dans ces immenses profondeurs, je me retrouve moi-même et je peux échapper à ce qui est injuste, dans ma haine de Dieu, dans ma séparation de Dieu, dans ma séparation, dans ma révolte contre le Père et la Mère, contre le monde, contre moi-même. C'est une purification, ça. Dans ces grandes profondeurs, tous les hommes peuvent recevoir une purification, parce que dans cette purification, il ne faut pas l'oublier, le fruit du sacrement descend et l'irrigue comme dans une racine. Ça, c'est la consolation du chrétien. Dieu nous a créés pour vivre en sa présence. Dieu nous a créés pour que tout en vivant en sa présence, en étant des instruments de Dieu, sans aucune distance entre lui et nous, on puisse régner sur la création humaine tout entière, sur la créature humaine tout entière, sur tous les hommes. On puisse régner. On puisse régner. On est des rois fraternels d'amour. On est le papa et la maman de cette royauté fraternelle d'amour. La Memoria Dei, c'est cette royauté fraternelle d'amour et de lumière. Tu nous as créé pour que, en te servant, toi, le Créateur, nous puissions régner sur la création tout entière. Et Dieu ne nous a jamais abandonnés là-dessus. Il ne nous abandonnera jamais là-dessus. Et la preuve, c'est qu'il nous donne, il envoie son Fils. Dès le départ, il l'a envoyé. Pour illuminer, pour animer de manière vivante et continuelle notre Memoria Dei, de manière que nous l'aimions. Et à l'accomplissement des temps, on est sauvé de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu et la gloire de l'homme. Et c'est donc à l'accomplissement de notre vie, dans l'introduction de la lumière de gloire, que nous voyons si nous faisons partie des méchants qui sont reçus en Dieu, ou bien de ceux qui se croient justes et qui ne peuvent pas être reçus en Dieu, parce qu'en fait, leur méchanceté finit par se refuser elle-même de disparaître à elle-même. C'est le carême, c'est un temps de compte, c'est un côté difficile, carême. Il y a un approfondissement, une exigence. Et la grâce aussi est donnée. C'est vrai que pendant le carême, il y a une grâce qui descend du ciel et qui fait qu'on peut faire ce progrès d'illumination, de sanctification, jusqu'à l'accomplissement, en anticipant cet accomplissement, dans la racine de nous-mêmes. Amen.